Vous avez vu tout ce qu'on a vécu ce matin? L'Église est en vie. Je vais reprendre le dernier chant qu'on a chanté parce que je pense qu'il a eu un impact important ce chant ce matin. C'est quelque chose qui... Je vais relire les paroles. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre dans ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Est-ce que vous êtes là? J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la louange qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Et à ça, l'Église dit un grand... Bon, il n'était pas grand votre amen, mais bon, ça va, je le prends. Ce matin, lorsqu'il y avait tous les enfants qui étaient là, j'ai été poussé vers l'arrière. Parce que on n'avait plus de place ici, c'était bien. Donc j'étais là-bas au fond et quand c'est comme ça, je peux observer. Je peux critiquer, je peux juger, je peux insulter, je peux... Mais j'étais là au fond et à un moment, vous avez vu, il y a Alex, qui est redevenu un enfant d'ailleurs, qui a pris une farandole et qui a emmené tous les enfants au fond. Et j'étais à côté de la sono et on voyait cette fierté. Les enfants avaient cette fierté d'être dans la farandole. Vous savez, les enfants, quand vous les mettez dans une farandole, ils sont contents. Quand vous les faites participer, ils sont contents. Et donc la farandole passe et il y a une petite fille qui me regarde et elle me fait coucou. Je fais comme ça parce que je suis un petit peu plus grand qu'elle. Voilà. Donc elle me fait coucou et continue dans sa farandole. Et elle se prend la chaise, boum. Et ça m'a fait sourire, pas le fait qu'elle se prenne la chaise, mais il y avait ce rayonnement sur son visage de cette petite fille et qui me faisait coucou. Elle était contente de me faire coucou. Et Fred, je suis dans la farandole. Et quand on a parlé d'offrande, j'ai ce message qui est venu dans mon cœur en disant, voilà, le sacrifice de bonne odeur. Vous savez, le sacrifice de bonne odeur, celui qu'on élève à Dieu, celui que... Dieu, il est là, il prend plaisir, il a une odeur qui lui rentre dans ses deux narines. Enfin, je suppose qu'il a deux narines, comme nous. Mais voilà, et Dieu, il prend plaisir à ça. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous donnez une pièce à un enfant pour aller mettre dans les paniers, est-ce que vous voyez la fierté sur le visage des enfants qui ont cette pièce? Ils vont mener et apporter leur pièce, ils vont la mettre dans le panier. Et il y en a des fois, ils prennent leur temps. Pour mettre leur pièce, ils la regardent comme ça, et puis ils la mettent doucement, ils la reprennent, ils la remettent, ils la reprennent, et ils la remettent. Et puis ils la reprennent, ou ils la remettent. Et là, vous avez cette fierté des enfants qui ont une pièce et qui vont le mener. Et bien, c'est ça que Dieu veut pour vous ce matin. Il veut que l'on soit comme des enfants. Il veut qu'on s'approche de lui comme des enfants. Qu'on ait cette nature à redevenir des enfants. Et ce matin, il y en a un qui l'a fait, c'est Alex. Il y a Ève aussi. Même Ève, je lui ai dit, écoute, on a appelé les enfants. Ève. Mais il y est allé quand même, je n'ai pas réussi à la retenir. Et c'est ce que j'ai vu ce matin. Et ça a été pour moi une expérience qui a été belle. Parce que d'habitude, je suis là devant et là, j'étais derrière et j'ai vu cette farandole, j'ai vu ces enfants qui avaient cette fierté de pouvoir louer Dieu. À leur façon, mais ils louaient Dieu ce matin. Vous êtes avec moi? Et c'est pour ça que j'ai lu les paroles de ce chant, parce qu'offrande, on est là pour apporter une offrande à Dieu. On est là pour apporter une offrande à Dieu. Je pense que tous ici, alors peut-être que certains n'ont pas fait cette démarche de donner leur cœur à Dieu, de donner leur vie à Dieu, pour redevenir un enfant. Vous savez, comme quand dans la Bible, il y a cet homme qui va voir Jésus qui dit « Mais comment est-ce que je pourrais renaître de nouveau, quoi ? Est-ce que comment je vais pouvoir rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir encore une fois ?» Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, pas de rentrer à nouveau dans le ventre de ta mère, parce qu'imaginez ma mère, elle serait un petit peu inquiète. Elle a pris 91 ans hier, ma mère. C'était la parenthèse. Mais voilà, c'est aujourd'hui, Dieu veut qu'on ait ce cœur d'enfant et qu'on puisse apporter un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Et ça, c'est le message que je voulais vous apporter ce matin. Parce que ça a été pour moi quelque chose que j'ai reçu pendant la louange. Il y avait cette joie et quand on voit ces enfants qui sont là et qui ont ce rayonnement sur le visage, on devrait, et moi le premier, je devrais avoir ce rayonnement sur le visage. Il y en a certains qui disent, Fred, il ne sait pas sourire. Si, si, à l'intérieur. Si, si, je souris tout le temps. Ça se voit un petit peu moins que vous, mais je souris. À l'intérieur. Et ça va en droite ligne avec ma prédication de ce matin. Ma prédication de ce matin, c'est abnégation. Est-ce que tout le monde connaît le mot abnégation? Est-ce qu'il y en a? Non, je ne vais pas vous demander qui ne connaît pas ce mot-là. Mais c'est un mot que j'ai reçu il y a plusieurs semaines déjà. Et j'avais hâte de venir ce matin pour vous parler de l'abnégation. L'abnégation. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, pourquoi j'ai reçu ce mot-là dans mon cœur et qu'il a fait, il a fait boum-boum pendant des semaines. Et je me suis dit, et quand même, quand on observe la Bible, on ne voit que de l'abnégation dans la Bible. Alors déjà, on va juste prendre une petite définition et après, on va partir dans des exemples dans la Bible. Pas beaucoup, hein, ce n'est pas le but. Mais quand on prend la deuxième dia et qu'on voit la définition, c'est un sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. De son intérêt. Je vais la refaire. C'est un sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. Alors si j'ai mis nom féminin, ça n'a aucune incidence. Hein. Ce n'est pas parce que les femmes sont plus à même à faire de l'abnégation. Au contraire. Les hommes sont beaucoup plus dans l'abnégation que les femmes. L'abnégation, c'est un sacrifice volontaire de soi-même. Et la chrétienté, c'est exactement ça. Et aujourd'hui même, quand on prend dans le monde, on voit que maintenant, eh bien, tout ce qui se développe, que ce soit le coaching, que ce soit maintenant tous les stages que l'on voit dans les entreprises, où on veut absolument que vous soyez dans un bien-être, où on veut que vous puissiez évoluer, où il y a des stages qui sont là pour faire en sorte que on puisse partir dans des choses pour pouvoir... Mais aujourd'hui, Dieu, il nous a montré lui le premier, qu'il a fait preuve d'une très grande abnégation. Et si je vous cite par exemple Jean 3,16, tout le monde connaît Jean 3,16. Et rien que les premiers mots du verset Jean 3,16 nous montrent l'abnégation de Dieu. C'est quoi les mots? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et si même on continue, qu'il a donné son Fils unique. Ça, si ce n'est pas une preuve d'abnégation, eh bien, je ne sais pas quoi, mais je ne comprendrai pas qu'on me dise, mais non, Fred, ce n'est pas ça l'abnégation. Ce n'est pas ça. Et pourtant, Dieu a fait en sorte que dans son amour de sa propre création, il ait lui-même donné son propre fils. Dernièrement, on a eu un témoignage de quelqu'un qui a eu une vision très, très forte, mais vraiment forte. Et il nous disait qu'en fait, Dieu l'a emmené, il était dans un moment spirituel avec lui, et puis Dieu l'a emmené directement sur le lieu de crucifixion de Jésus. Et il avait à côté de lui, il avait Marie, il avait Pierre. Et en fait, Dieu lui a montré qu'au moment où Jésus était sacrifié, Dieu pleurait. Et Dieu disait, je suis en train de voir le sacrifice de mon propre fils pour vous. Ça, si ce n'est pas de l'abnégation. Est-ce que c'est de l'abnégation? Vous pouvez me dire non. Hein. Faudra justifier, mais vous pouvez me dire non. Dieu a fait preuve d'abnégation envers le monde. Dieu est là et tous les jours, il fait preuve d'abnégation. Il fait preuve d'abnégation. Parce que Dieu est un Dieu vivant qui se laisse approcher. Dieu se laisse approcher. J'ai lu une histoire qui m'a fait sourire. Un enfant qui vient voir son papa et qui dit, « Papa, comment est-ce que Dieu est grand ?» Comment Dieu est grand? Vous savez, les enfants, ils ont des fois des questions comme ça, et ils vous disent, mais c'est une question à laquelle vous dites, bon, comment répondre à ça? Et donc le papa, il cherche, et à un moment, il lève les yeux au ciel, et il voit un avion. Et il dit, voilà, regarde l'avion là-bas. Vous savez, les avions de ligne, quand ils sont en règle générale, ils sont à peu près à 10 000 mètres d'altitude, entre 9 et 10 000 mètres d'altitude, donc 10 kilomètres. Il dit, voilà, comment est-ce qu'il est l'avion là-bas? Est-ce qu'il est grand ou il est petit? Alors le petit garçon regarde, il dit, mais il est tout petit l'avion. Il est tout petit. Et donc le papa prend son fils et il l'emmène dans un aéroport. Et il l'emmène près d'un avion et il dit, voilà, regarde l'avion maintenant, comment il est? Papa, il est grand, il est gros, il est grand cet avion. Il dit, voilà, en fonction de ta distance avec Dieu, il sera soit grand, soit petit. Quelles sont aujourd'hui nos priorités? La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a eu une prédication sur l'Église en bonne santé. L'Église en bonne santé. Et pour moi, je pense que c'est une très belle expression, l'Église en bonne santé. On aspire tous à avoir une Église en bonne santé, à n'avoir aucun problème, à ce que tout le monde puisse fonctionner, marcher, parce qu'on est là pour le même motif, on a tous le même but, le même objectif. Quand on vient à l'Église, on a tous la même priorité. Et l'Église, donc, dans ces cas-là, l'Église en bonne santé, pour moi, serait un pléonasme. Il y aurait une redondance. L'Église en bonne santé, l'Église, par définition, normalement, l'Église, elle devrait être en bonne santé. On ne devrait pas dire, vous préciser, l'Église en bonne santé. Et pourtant, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de choses qui font que parfois, eh bien, dans l'Église, on n'a pas cette bonne santé. Et donc, nos priorités, quand on vient à l'Église ce matin, et c'est vrai qu'Antoine a eu l'occasion d'aborder sur certains sujets la semaine dernière, qui ont peut-être piqué pour certains. Je pense, je vais le citer, je vais être obligé de le dire, mais il a parlé des retards à un moment. Quelles sont nos priorités? On a des personnes, et dernièrement, moi, on a une personne qui est en rébellion envers nous, envers le phare, en disant, mais vous êtes une église qui ne savent pas donner d'amour. Mais tu cherches quoi à l'église? Évidemment qu'il y a de l'amour ici, tout le monde le dit, tous ceux qui viennent ici voit qu'on a un esprit de famille, tout le monde voit que le phare est en marche. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon prêche en disant « l'Église est en vie ». Si vous vous arrêtez à simplement regarder un pasteur parce qu'il a une écharpe autour du cou ou parce qu'il a les cheveux qui poussent au sud et pas au nord, ben vous serez peut-être déçu. Si vous arrêtez à mon comportement, au comportement d'Antoine, d'Alex, Thierry, vous serez déçu. Si vous arrêtez au comportement de votre voisin, à votre gauche, à votre droite, peu importe, vous serez déçus. Parce qu'à un moment donné, on déçoit tout le monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette déception après? Quelle va être ta priorité? Lorsque tu viens à l'église, quelle est ta priorité? Comment est-ce que tu franchis le seuil là-bas? Est-ce que tu as envie de dire, Seigneur, moi c'est pour toi que je suis là. J'ai envie de toi, rien que de toi, pouvoir te louer. Et c'est vrai que ben, malgré tout, l'Église, c'est une union, c'est pas le bâtiment, on s'en fiche du bâtiment. C'est pas des murs. L'Église, c'est vous, c'est moi, on a un cœur à cœur. Et dernièrement, on a même entendu dans une prédication quelqu'un qui disait, mais Jésus a dit, voilà, à partir du moment où deux ou trois sont assemblés en mon nom et qu'ils sont dans l'unité, ça on a tendance à l'enlever un petit peu du verset de temps en temps, et qu'ils sont unis, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, je suis au milieu d'eux. Et ce prédicateur a mis une impulsion dans ce verset-là parce qu'il disait, Jésus, il trépigne. Il trépigne, il a envie. C'est pas qu'il dit, voilà, bah, vous êtes deux ou trois, bah, je vais venir, tiens. J'ai que ça à faire. Non, Jésus, il a cette envie, il a cette soif. Il sait pertinemment qu'à partir du moment où deux ou trois sont assemblés et qu'on est là et qu'on est dans cette unité et qu'on sait ou qu'on va parler de lui, on va parler de Dieu, qu'on va parler éventuellement du principe de mieux le connaître, eh bien, Jésus, il est là, il trépigne, il dit, mais moi, je veux venir avec vous, je veux venir, je veux être là. Je veux être avec vous. Et c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Ce matin, Jésus est là. Et Jésus connaît vos cœurs à chacun, il connaît mon cœur, connaît nos cœurs. Il sait pertinemment, il sait maintenant ce que tu es en train de penser. Peut-être que tu es en train de dire, oh, le mec, là-haut, sur l'estrade, il est un peu bizarre. Jésus le voit, il est là ce matin. Pourquoi? Parce qu'on est plus que deux ou trois. Donc il est là, on est en unité. Du moins, je l'espère. Je pense que oui, on est en unité. Pourquoi? Parce que si on vient à l'église, c'est pour lui, et rien que pour lui. Moi, je viens à l'église pour Dieu. Alors c'est vrai que des fois, on peut avoir des confrontations, on peut avoir des discussions, mais le but, c'est d'avoir la banane. J'ai une banane intérieure, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on a la banane, on a plaisir à revoir nos frères et sœurs. Est-ce que vous avez ce plaisir ce matin à revoir vos frères et sœurs? Oh, vous avez tous dit ça pour me faire plaisir. Si, si, vous l'avez dit pour me faire plaisir. Ah, c'est ici que j'entends plus de noms. Ici, il n'y a pas de noms. Bon, il y en a certains, on est un petit peu moins content de les voir que d'autres. Bon, moi j'avoue qu'Alex, des fois, il me saoule. Je suis content de te voir, Alex. Alors pourquoi? Quelles sont nos priorités? Allons-y. On va regarder la première. Moi! Ma priorité, c'est moi. Oh si, c'est moi. C'est moi. Regardez-moi. Regardez. Moi. Moi, moi. L'Église, elle est à moi. Si vous êtes là, c'est grâce à moi. Pourquoi ? Parce que je cherche une place. Parce que c'est moi. Allons-y, les priorités. Ma famille. Vous savez que des fois, il y a des personnes, ils mettent tout dans leur famille. Et c'est bien des fois. C'est bien des fois. Un jour, j'avais surpris Pascaline parce que j'ai dit, mais moi, si jamais il y a quelqu'un qui te fait du mal, je vais être là. Le mec, il faudra qu'il me marche dessus. Il y a de la route. Hein. Il faudra qu'il me marche dessus. Je m'opposerai. Je serai là pour défendre ma famille. Mes enfants, ce sont mes deux yeux, mes enfants. Premier qui fait du mal à mes enfants, je serai là. Ils auront affaire au père, bien évidemment. Mais ma priorité, elle est, d'un point de vue spirituel, elle est différente encore. Et donc, c'est pour ça que des priorités, il y en a bien d'autres encore. On prend l'Église, avec un petit E. Vous savez, il y a une notion d'équilibre dans l'Église. Il y a une notion d'équilibre, toujours. Vous avez ceux qui ne font que donner dans l'Église. Ils sont là, ils sont toujours là. Dans toutes les réunions, ils sont là. Et attention, c'est très bien. Ce que je dis là, c'est très bien. Vous pouvez très bien l'être. Mais si tu cherches simplement à te montrer ou à pas de bonnes intentions pour l'Église, ton intention n'est pas bonne. Mais par contre, si tu viens dans l'Église parce que tu as une priorité qui est là, qui est sous-jacente, et, ou même qui n'est pas sous-jacente, mais qui est là, qui est évidente, que tu viens pour la dernière priorité que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien là, tu es bon. Tu as compris le principe de l'Église. Et même à partir de là, on pourra changer la première lettre, on pourra mettre à la place du E avec un accent aigu, on pourra mettre une majuscule. L'Église. On continue dans les priorités. Quelles sont tes priorités ? Est-ce que c'est ton salut ? Ton salut. On va aborder un sujet tout à l'heure. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais le but, ce n'est pas de dire beaucoup de choses. C'est de dire des choses qui puissent avoir une onction et avoir un impact dans nos cœurs ce matin. Et moi, ce matin, ça a eu un impact dans mon cœur. Parce que je le dis à chaque fois et je le redirai à chaque fois que je prêcherai. Mais je prêche d'abord pour moi. Mon salut. On est beaucoup trop à des fois à chercher la récompense. Oui, bah donne, et puis Dieu va te récompenser au centuple. Souvent on l'entend ça. Dieu, vas-y, donne, Dieu va te récompenser au centuple. On cherche trop la récompense des fois. Et c'est pour ça que je parlais des enfants, parce que les enfants, ils sont là avec un cœur sincère. Ils n'ont pas cette notion de dire, mais je vais avoir une récompense si je fais une farandole. Je ne vais pas avoir une récompense si moi je suis le premier dans la farandole et que je donne la main à Alex, parce que Alex a une onction dans sa main. Et l'enfant ne pense pas à ça, il ne pense pas à se dire, je vais avoir cette récompense. Il a un cœur d'enfant, un cœur simple, un cœur sincère. Et je ne dis pas qu'on n'a pas un cœur sincère, mais Dieu veut vraiment un cœur à cœur avec vous. Il veut un cœur à cœur. Il veut absolument qu'on puisse être avec cette distance, vous savez, comme l'avion, à pouvoir m'approcher de lui. Et plus je m'approche de Dieu, et plus je vois sa grandeur, et que je vois sa magnificence, et bien c'est ça l'Église. C'est ça l'abnégation. C'est de pouvoir dire, peu importe moi, si je suis là, c'est pour Dieu, rien que pour Dieu. C'est ma dernière priorité. Mais avant ça, il y en a d'autres. Ça peut être aussi pour, regardez, ça va être mon couple. Mon couple, des gens qui, vous savez, des fois qui sont surprotecteurs. Le couple peut passer devant Dieu. Tout comme ça peut être une voiture, ça peut être des voyages, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton travail qui passe avant Dieu. Ce sont tes priorités. Et peut-être que tu es là ce matin à l'église et que tu penses déjà à ta journée de demain, parce que demain, dans ton travail, et je suis sûr qu'en même temps que je le dis, il y en a certains qui se disent, bah oui, c'est vrai, demain, tiens, j'ai une sacrée journée. Moi, par exemple, j'ai une très grosse semaine, là, cette semaine qui arrive. J'ai aucune soirée à moi, cette semaine. Mais je suis là, et j'y pense parce que là, je parle du travail. Mais là, je suis à l'église et je suis là pour Dieu. Je ne pense pas à mon travail. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est de venir pour lui, et rien que pour lui. Une autre priorité, mon prochain. Vous savez, ce passage de la parole qui dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et il y a des gens qui passent énormément de temps dans les œuvres. Ils ont perdu cette notion de priorité. La priorité, c'est quoi ? C'est de travailler dans les œuvres pour Dieu. Et on peut en faire des œuvres. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, l'Église est en vie. Oui, elle est en vie. Moi, je me réjouis de voir des enfants, de voir un jeune couple qui s'élève pour les jeunes. Et je suis concerné puisque j'ai deux... Oh, je ne peux plus dire ados, hein. Ouais, mais ils arrivent vers la vieillesse là bientôt, donc ils auront bientôt 26 ans. Non, non. Ouais, j'ai deux jeunes à la maison. Donc c'est vrai que je suis content quand on parle de The Rencontre, c'est des expériences qu'ils ont vécues. Donc oui, il y a ça, mais il y a d'autres départements quand on passe du temps dans l'intercession. Il y a des super moments. Le mardi matin, on passe des très bons moments dans l'intercession. Quand c'est le jeudi soir, Christiane nous a fait faire un exercice pendant la répétition de louange. Et le lendemain, on a pris un mail. Elle était contente parce qu'elle a vu qu'on est rentré dedans. Bon, on a fait ça pour lui faire plaisir, mais on l'a fait. Alors surtout si vous voyez qu'il y a quatre chaises entre Christiane et Antoine, c'est pas parce qu'ils sont fâchés. Hein. Photo, photo. Oh, vous avez raté ça. Aïe, 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 aïe. Et enfin, ma priorité, Dieu. Jésus. Ce matin, je trouve que le moment de louange a été particulièrement fort. Quand on lit ou quand on chante les paroles qu'on chante, c'est là où on prend plaisir à louer Dieu. À louer Dieu. Parce qu'il ne mérite la louange que lui et lui seul. Lui et lui seul. Il mérite tout. C'est-à-dire que quand on prêche sur l'abnégation, forcément, il y a cette notion de sacrifice. Le sacrifice, c'est de dire, c'est plus moi, Fred, même si c'est moi qui apporte ma louange, mais je mets Dieu en premier dans ma vie. Et on est là pour mettre Dieu en premier dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi? Là, les motifs sont nombreux, je ne peux pas tous les énumérer, mais Dieu aime que son peuple puisse être près de lui. C'est un père, il a un cœur de père. Il a un cœur de père. Il a un cœur de père. Allez, on va lire un passage. Luc 10, 10, 19. Je vais aller assez vite, mais pourquoi je lis tout ce passage? Parce que déjà, il va plomber l'ambiance, ça va être sympa. Et en fait, je lis tout ça juste pour la dernière phrase. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Ce n'est pas cette phrase-là, c'est la suivante. Regardez. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Verset 15, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on vous fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu, ça va, tranquille, tranquille. Mais pas un seul cheveu de vos... oui, j'ai des cheveux, hein. Arrêtez de penser ça quand même. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. J'ai une réflexion que je vais vous exposer. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, votre âme. Quand on prend le grec, vas-y, la persévérance, c'est hyponome, hyponomé, ou je sais pas. C'est une constance, une persévérance, l'endurance. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances, patiemment, constamment. C'est toujours facile à dire, hein? Ouais, de toute façon, nous, la persécution, on l'attend, etc. Oui, je pourrais mourir pour Dieu. La persévérance, elle est là. Dieu est un Dieu de persévérance. Dieu veut qu'on puisse continuer à courir cette course. Et quand on prend le psyché concernant l'âme, ma réflexion, elle repose là. Vous savez, quand on prend le grec, alors évidemment, on va parler du souffle. L'âme est une composante importante. Vous savez qu'on est tripartite, c'est-à-dire qu'on a un corps, une âme et un esprit. Et on a tendance des fois à vouloir sauver des âmes, sauver des âmes, sauver des âmes. Et on veut sauver des âmes. On dit Jésus était un gagneur d'âmes, effectivement. Et il y a eu une déviation, une déviance de ce mot par rapport à l'âme. Parce qu'en fait, l'âme n'a rien à voir avec le spirituel. L'âme, c'est vous. Ce n'est pas votre chair, hein, puisque vous avez votre corps. Votre âme, c'est votre caractère, c'est votre façon de penser, c'est votre caractère, c'est tous vos traits de caractère, c'est tout ce que vous êtes. Et quand vous vous dites que mon âme me parle, non, c'est ton toi qui te parle à toi. Par contre, on a cette notion d'esprit. Et c'est là où va ma réflexion, c'est que quand on dit qu'on est des gagneurs d'âme, eh bien, on va aller plus loin. Et tout à l'heure, je mettais dans mes priorités, quand je viens à l'église, que ma priorité, c'est mon salut. Et effectivement, notre but, c'est quoi? C'est d'avoir une éternité. Je parlais de récompense tout à l'heure. On disait, oui, ma récompense, ce sera l'éternité. Effectivement, la semaine dernière, on l'a lu, c'est écrit dans la Bible. Réjouissez-vous à ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne. À partir du moment où tu crois en Jésus, ton nom est inscrit. Mais ma réflexion, elle va plus loin que ça. Parce que je pense que effectivement le salut, il est là et on doit tous aspirer au salut. Moi, j'aspire qu'une chose, c'est de pouvoir un jour me retrouver devant mon Dieu. Comment est-ce qu'il va m'accueillir? J'en sais rien. Il va peut-être me dire, Fred, tu as fait ça dans ta vie. Fred, tu as fait ça dans ta vie. Non. Il va aussi dire, voilà, ce que tu as fait là, c'était bien. Ce que tu as fait là, c'était vachement bien. Tu as été un bon serviteur. Vas-y, rentre. Vas-y. Puis prends une bonne bière. J'espère qu'il y aura de la bière là-haut. Mais pour moi, je pense que l'âme, quand on dit on va gagner une âme, c'est le fait de prendre soin de votre frère ou de votre sœur maintenant sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on soit chaque jour de mieux en mieux. J'allais dire de meilleur en meilleur, ça ne se dit pas, c'est pas français. Comment je pourrais dire ça? Mais Dieu veut toujours qu'il y ait une progression, que chaque jour on puisse progresser, que chaque jour on puisse s'approcher de lui et que chaque jour, eh bien, il puisse dire, OK. Voilà, c'est bon, là tu as été bon, là c'est bien. Et c'est la notion d'épreuve, hein, toujours. Mais bon, bref, je ne sais pas, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, gagner une âme, c'est là où, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. C'est-à-dire que mon âme, mon caractère, mon caractère doit changer aujourd'hui. Mon caractère doit continuer à changer. Il ne faut pas que le Fred d'hier soit le même que Fred qu'aujourd'hui. Hier, j'étais moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça y est, j'ai atteint la perfection. Content, merci Seigneur. Puis ce matin, je me suis levé, j'ai dit, voilà, ouais, t'es parfait. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'à chaque jour, on puisse toujours progresser et progresser. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez cette réflexion à vous dire, Seigneur, mais aujourd'hui, dans quel domaine est-ce que tu voudrais que j'évolue? Dans quel domaine est-ce que tu voudrais que je progresse? Quelles sont les petites choses? Et Paul le disait, j'ai une épine dans le talon, dans le pied. Pourquoi? Parce que Paul continuait à avoir un péché dans sa vie qu'il continuait à pratiquer. Il y en a certains qui disent que c'était physique. On ne peut pas le savoir. Moi, je pense que c'était plus spirituel. C'est moi, il n'y a rien qui le dit. Quand il dit j'ai une épine dans le pied, ça ne veut pas dire qu'il avait un problème, peut-être qu'il avait un problème à la cheville. Moi, je pense qu'il avait un problème spirituel, ou il avait peut-être un péché qui continuait. Mais ça n'empêchait pas qu'il avait sa priorité, c'était Dieu, de servir Dieu. Et même en prison, il était là et il disait Seigneur, moi je te louerai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il louait Dieu. Ça va? Est-ce que ça va? Tout à l'heure, on avait Christiane qui disait, moi, je suis excité. Ben, moi aussi. Ça ne se voit pas, c'est intérieur. Chez moi, c'est comme les sourires. Quand je suis excité, ça ne se voit pas. Youpi. You know what? I'm happy. Vous connaissez Droupi? Non, enfin, il n'y a que ceux de mon âge qui connaissent Droupi. Droupi disait toujours, You know what? I'm happy. C'est un basset. Vous savez, c'est un petit chien, c'est un basset. Donc, vous voyez, les bassets, ils sont vachement souriants. Et il faut qu'on soit excité par le principe de s'approcher de Dieu. Il faut qu'on soit ça. J'aime pas les il faut. C'est vrai que des fois, à la maison, je le dis, mais arrête, arrête de commencer tes phrases par il faut. Mais pourtant, il faut commencer les phrases par il faut. Vous savez, c'est le style de phrase qu'on entend en France, ne jamais dire jamais, il faut. Voilà. Dieu a un cœur de père. Dieu a un cœur de père. Il vous connaît tous par vos prénoms. Tous. Il voit votre cœur, même si vous portez des lunettes de soleil. Il voit votre cœur. Il vous connaît mieux que personne. Mieux que personne. Et parfois même mieux que vous-même. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Parce que Dieu veut qu'on puisse faire cette preuve d'abnégation. C'est de dire, Seigneur, ma priorité, c'est toi. Donc si ma priorité, c'est toi, ça veut dire que ma priorité, c'est pas moi. Et donc si ma priorité, c'est pas moi, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je fasse preuve d'abnégation, il faut que je fasse un sacrifice de moi-même pour pouvoir t'apporter un sacrifice de bonne odeur, parce que le sacrifice de bonne odeur, c'est justement le sacrifice de moi-même. Oula, ça y est, j'en ai perdu. Hein. Ça n'a rien à voir avec Pythagore ou des trucs comme ça dans les maths. Hein. Mais Dieu aime ça, Dieu aime ça, Dieu aime ça, Dieu aime avoir un cœur à cœur avec vous. Le cœur à cœur, il est déjà dans la louange quand on arrive le matin. Et je ne vous cache pas, parfois il faut être dur. Mais quand Antoine a parlé la semaine dernière des retards, moi j'étais content. J'étais content. Pourquoi? Pas pour vous mettre un bâton, pas pour prendre un bâton puis vous faire mettre les doigts comme on faisait à l'école. De notre époque, on nous tapait sur les doigts. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous allez au tribunal. Et puis on nous tapait sur les doigts. Bon, je ne l'ai pas eu souvent, mais j'avais un prof de maths, il avait une grande règle comme ça, et puis oui, il y en avait qui nous jetaient les craies, machin, bon bref. Mais c'est pas ça le but. Quand on parle des retards, pourquoi? C'est une question d'abnégation. C'est de dire, je vais faire un sacrifice à moi-même. Je vais, s'il le faut, je vais partir 10 minutes avant. Comme ça, je vais arriver 10 minutes avant aussi à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un respect envers Dieu. Et c'est une phrase que j'utilise souvent. Et on n'est pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là pour jouer à l'église. On est là pour être vraiment sincère devant Dieu. Pouvoir lui apporter le meilleur de nous. Pouvoir lui donner tout ce qu'on veut. Et quand on parle comme ça des retards, il y a aussi une notion de travail. Le travail, c'est qu'il y a un groupe de louanges qui s'est réuni quelques jours avant le dimanche pour pouvoir préparer une louange pour que vous puissiez suivre le groupe de louanges et aller dans l'adoration avec Dieu. Et que si vous partez en retard, je suis sûr que si un jour vous arrivez à la gare Lille-Finlande ou à Lille-Europe et que vous avez un train à 10h et que vous arrivez à 10h05, 10h10, 10h15, 10h30, je suis sûr que votre train ne sera plus en gare. Quand vous regardez un film, vous aimez voir le début parce que dans le début, il y a l'intrigue. Et c'est après que vous allez pouvoir voir, au fur et à mesure du film, eh bien, à la fin, vous allez dire, ouais, ok, c'est ça, c'était ça, ok, je l'ai vu au début, mais je n'avais pas percuté comme ça. Eh bien, le culte, il est pareil. Le culte, c'est pareil. Vous arrivez, vous commencez dans la louange et Dieu va vous révéler des choses. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez avoir votre priorité qui va être votre cœur et Dieu va parler dans votre cœur. Et au fur et à mesure du culte, parce qu'il y a toujours une ligne directrice, eh bien, Dieu va faire en sorte que quand on sort, quand la fin est là, eh bien, on puisse dire, Seigneur, j'ai progressé avec toi. Je suis moins pire qu'hier. Et j'irai même plus, je dirais même plus, je suis meilleur qu'hier. Pourquoi? Parce que tu as continué à travailler en moi. Tu continues à travailler en moi. On y va, je continue parce que là, je vais bientôt. Ça va, il me reste un petit peu de temps. 1 Samuel 17. Une preuve d'abnégation qui a été très forte. Vous avez des abnégations comme ça partout, hein, Jésus, Dieu, vous avez Marie, il y en a plein qui ont fait preuve d'abnégation. Mais regardez David. David dans 1 Samuel 17, les versets 26 à 37. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin, on parle de Goliath, et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Là, David fait preuve d'abnégation. Il dit, oh, on est en train d'insulter mon Dieu. On est en train d'insulter mon peuple. Et David, ce n'était pas David là. C'était David, le fils d'Israël. Le fils qui était là et qui faisait partie du peuple d'Israël, qui disait, voilà, moi, mon Dieu, eh bien, il y a un Philistin, Goliath en l'occurrence, qui est en train d'insulter mon Dieu. Et ce n'est plus moi qui agis. C'est Dieu qui agit en moi parce que je veux défendre mon Dieu. Preuve d'abnégation. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, on va aller vite là-dessus, voilà comment on agira pour celui qui le tuera. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Le propre frère de David vient le voir en disant, oh, t'es qui toi? T'es qui? T'as laissé ton troupeau, regarde, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau? En plus, il y a aussi des petits mots réducteurs comme ça, ton petit troupeau. Vous savez, le dédain, à qui est-ce que t'as laissé ton petit troupeau? Dans le désert, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Le frère, le propre frère de David n'avait pas compris ça. Et il va et il l'accable. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont venir vous accabler. Il y a des paroles où ils n'en sont pas conscients, mais ils vont vous dire quelque chose qui va vous accabler. Alors que David avait un cœur pour Dieu. Il avait cette preuve d'abnégation. Il voulait pouvoir défendre son Dieu. On continue. Verset 29. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Là, il a un geste qui est très bien. Il se détourne de la personne qui va l'accabler. Il s'en détourne. Il dit, ouais, toi, tu ne m'apportes rien. Je vais aller voir un autre. Quelqu'un qui sera m'encourager. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne. Là, il fait encore une fois preuve d'abnégation. Que personne ne se décourage. Et c'est pas David qui dit, David, moi je reste encouragé. Moi je reste encouragé. Parce que là, ça aurait été une forme d'orgueil, effectivement. Mais il dit à tout le peuple que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Encore une preuve d'abnégation. Moi, ton serviteur. Humilité, abnégation. J'irai me battre contre ce Philistin. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Boum, encore une fois, on essaie de l'accabler. Maintenant, je t'encourage, si tu as un cœur pour Dieu, si tu as envie de Dieu, si tu as soif de Dieu, garde ta route, garde ton cap, garde ton chemin, garde ton but, ton objectif, Dieu. Ton serviteur gardait les brebis, donc David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père, quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. J'ai fait la même chose ce matin avec un lion. C'est ainsi, verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Deuxième fois, il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Quelle histoire! Quelle histoire! David. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, alors David, il a commis l'adultère. David est un roi. Ça a été le deuxième roi d'Israël. Il a été nommé par Saül après. Deuxième roi d'Israël. Et il a battu Goliath. Vous connaissez la fin de l'histoire, même si certains pensent que c'est une légende. Antoine l'a dit la semaine dernière, il dit, moi je pense que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est arrivé, oui, bien sûr. David a existé, Goliath a existé, et Dieu a permis que son peuple soit victorieux. Amen. Et donc ce matin, vous êtes des gens victorieux. Pourquoi? Parce que vous faites partie du peuple d'Israël. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes même mieux que ça, vous êtes ses propres enfants. Vous êtes cohéritiers avec Jésus. Non, Gérard, t'en vas pas. Oh. Ne nous trompons pas de cible. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible dans l'Église. Ne nous trompons pas de cible. Notre prière doit... je vais la refaire. Ne nous trompons pas... C'est super dire à dire. Hein. Essayez de vous entraîner chez vous. Vous allez voir. Vous allez moins rire. Ne nous trompons pas de cible. Je vais le faire plus lent. Anticonstitutionnellement. Moi, je sais le dire. Mais ne nous trompons pas de cible. Ayons des priorités qui sont justes et gardons nos priorités. Mais pour garder nos priorités, il faut qu'on fasse preuve d'abnégation. Et je vais juste vous passer une petite vidéo qui dure à peu près une minute. Et ça va réjouir les fans de Louis de Funès. Je sais qu'il y en a un dans la salle. Non, il n'est pas là. Ah, il est parti avec les enfants, peut-être. J'aime bien les deux expressions des deux hommes, là. Entre celui qui louche, qui se trompe de cible, et puis la réaction de son supérieur qui est... Ne nous trompons pas de cible. Bon, vous avez reconnu le film? D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu la fin, bah, tant pis pour vous. C'était la fin. Ne nous trompons pas de cible. L'Église est là et l'Église est en vie. L'Église est en vie. L'Église n'est pas quelque chose de mort, n'est pas quelque chose, une entité où je vais à l'Église, où, vous savez, je vais à l'Église dans le principe, je vais dans un bâtiment ou quoi que ce soit. Non. Quand je dis je vais à l'Église, je vais me réunir avec mes frères et sœurs. Et je vais avoir un cœur à cœur avec mes frères et sœurs. Et la difficulté dans le milieu spirituel, c'est de pouvoir faire cette part des choses entre l'individuel et le groupe. L'individuel, c'est de dire, moi, je vais apporter un parfum de bonne odeur pour Dieu, moi, personnellement. Et ce parfum de bonne odeur va faire en sorte que chaque parfum de bonne odeur qu'il y a autour de moi, de tous mes frères et sœurs qui sont là, on va élever quelque chose de bon pour Dieu. Et à partir de là, c'est là où l'Église a un parfum qui est bon pour Dieu. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Je vais vous encourager par deux derniers versets, parce que c'est écrit en toutes lettres, dans Luc 9, les versets 23 et 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, Fred, c'est écrit dans la Bible, ça? Donc si jamais je voulais réécrire un petit peu la Bible, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse preuve d'abnégation, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? La notion d'âme, vous savez, le travail qui se passe déjà maintenant. Sauver une âme, ce n'est pas essentiellement, ce n'est pas forcément le fait de gagner une éternité, mais c'est déjà, dès aujourd'hui, dès maintenant, à la minute où je te parle, de commencer à travailler sur ton âme, à gagner ton âme. Gagner ton âme, c'est gagner ton caractère pour Dieu. Tu as un esprit de colère en toi, demande à Dieu de te l'enlever. Tu as un esprit, quel qu'il soit, où tu as, je parle pas, on va enlever le mot esprit, mais tu as un caractère qui fait que bah, tu piques des colères, ou tu es hyper jaloux, ou tu es hyper timide, etc. Ou tu fais des choses que tu sais pertinemment que Dieu ne veut pas que tu fasses, etc. Ça, c'est ton âme. Travaille pour gagner ton âme pour Dieu. Travaille pour gagner ton âme à Dieu. Et le dernier verset, Proverbe 11, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Ça, c'est une belle promesse, une très belle promesse. Je vais la relire. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Amen. Amen. On va se lever. Enfin, moi, je suis déjà debout, ça va? Mais j'aimerais qu'on prie, parce que je voudrais. Il y a des moments où il faut pouvoir, vous savez, rebooter. Quand on dit rebooter un ordinateur, ça veut dire ou pas sauvegarder, mais j'ai l'expression qui m'échappe, mais formater, formater quelque chose. Des fois, il est bon de pouvoir formater les choses. De pouvoir dire, je repars à zéro parce qu'il n'y a pas une remise à zéro pour Dieu. Le travail qui est fait pour Dieu, Dieu s'en souvient, Dieu le garde. Même la moindre larme qui coule sur vos joues, Dieu nous dit qu'il les récolte et il les garde. Une larme permet des fois de pouvoir mieux voir parce qu'il va nettoyer les yeux. Et Dieu fait en sorte qu'il n'y ait jamais de remise à niveau, ou de remise à jour, ou de. Enfin, si, des remises à jour, oui, mais de remise à zéro. Par contre, il veut des remises à jour. Il veut qu'on puisse se recentrer, qu'on puisse dire, Seigneur, mais j'en suis arrivé où? Où j'en suis aujourd'hui? Effectivement, si je viens, je garde cet exemple de tout à l'heure, si je viens à l'église, je viens pourquoi à l'église? Est-ce que je viens parce que j'ai envie de critiquer? Est-ce que je viens parce que j'aime me réjouir? Est-ce que je viens parce qu'il faut absolument que je soutienne quelqu'un? Parce que je sais qu'il est dans une période difficile et j'ai envie d'aller le voir et avoir ce cœur à cœur avec lui pour pouvoir l'encourager, etc. Eh bien, vous voyez, on est aux deux antipodes. Aux deux antipodes. C'est là où Dieu veut qu'on puisse se mettre à jour, pouvoir avoir cette notion de gagner son âme, avoir cette preuve d'abnégation, de pouvoir avoir un sacrifice à soi-même et dire Seigneur, travaille dans mon cœur, maintenant, travaille dans mon cœur. Et je vais vous demander de fermer vos yeux. Et la première des choses, c'est que si ce matin, il y a des personnes qui n'ont jamais fait cette expérience avec Dieu, de pouvoir dire Seigneur, je te confie ma vie, parce que c'est vrai que parfois mes priorités ne sont pas les bonnes, c'est moi, moi et moi, rien que moi, ou c'est que mon couple, que ma famille, j'aime bien passer que du temps dans ma famille et je t'ai oublié, Seigneur. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, et qui aujourd'hui disent, voilà, Seigneur, ma priorité, je veux que ce soit toi. Parce que je sais qu'à partir du moment où ma priorité, elle sera toi, toi, tu vas prendre ma vie en main. Parce que mon abnégation fera que c'est toi qui vas prendre le volant de ma voiture. Et c'est toi qui vas faire en sorte que chaque jour, et chaque jour passant, je puisse être de mieux en mieux face à toi. Parce que le Seigneur veut toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il a ce cœur de père. Il a ce cœur de père, il veut ce cœur à cœur avec toi. Donc si ce matin tu n'as jamais fait cette démarche de donner ta vie à Jésus, je te demande de lever ta main et de pouvoir dire, moi Fred, je veux vraiment que Dieu puisse rentrer maintenant dans ma vie, dans mon cœur. Et à partir de là, les choses commencent. Et c'est là où on va rebooter les choses. C'est là où il y aura une nouvelle mise à jour qui va se faire dans ta vie. Parce que Dieu va commencer à faire du ménage, il va commencer à venir et déjà il va commencer par implanter son amour de Père dans ton cœur. Il va te donner une paix, il va te donner un amour, il va faire en sorte que tu puisses avoir cette tranquillité en toi. Parce que Dieu est est un Dieu, est un Père. Donc si ce matin tu veux faire cette démarche et dire Seigneur, ok, lève ta main là maintenant à ta place et je vais prier pour toi.